Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on donne 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Un mois après les « Je suis Charlie » épinglés au manteau et scotchés aux vitrines, la France a la gueule de bois. Le collectif contre l'islamophobie en France, le CIF, a livré aujourd'hui des chiffres qui font mal. Entre janvier de l'année dernière et celui de cette année, le collectif a recensé une hausse de 70% des actes islamophobes. 70%. Dans un article de Libération, Alice Géraud précise « L'écrasante majorité est constituée par des discriminations, une centaine relève de discours ou de propos islamophobes, le reste se partage entre dégradation et profanation, agression verbale et agression physique. » Dans le même temps, Angémag relayait une tribune publiée hier sur le site du Monde des Religions et signée d'Abdelrahmen Azouzi. Ce chef de service au CHU d'Angers et élu du conseil municipal depuis 2008 vient de donner sa démission. Il écrit « Insidieusement, la France est probablement devenue la nation démocratique la plus islamophobe du monde et vous, élus du peuple de France, vous en portez, que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou inconscient, une part de responsabilité. » Après le « Nous sommes tous Charlie », après le temps de l'émotion et des réformes hâtives dont nous parlions hier soir avec notre invité, le journaliste Sébastien Rochard, il est urgent de poser les bonnes questions.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, vous retrouverez le billet lance-torpille de Yann. Il est clairement décidé à torpiller. Il causera dans le micro juste avant l'interview de Thierry Bidet, le programmateur du festival Les Éclectiques, qui aura lieu demain, jeudi et vendredi. Mais d'abord, nous allons parler de nous, puisque nous allons parler des radios associatives à l'occasion de la semaine des radios associatives en Pays de la Loire. À quoi servons-nous? Qui nous écoute? Sommes-nous amenés à disparaître et quels défis nous attendent? On en a parlé cet après-midi avec Charlotte Velty, directrice de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Alors, c'est une radio libre.
Chaud,
courant.
Chaud, parfait.
Que nous émettons sur 90,8 et 96,15 MHz. C'est la seule radio qui se paye deux émetteurs.
Petit montage signé Télérama, c'était il y a 34 ans la fin du monopole d'État sur la bande FM, la naissance officielle des radios libres, bien que nombre d'entre elles surnommées pirates émettaient déjà depuis quelques années. Bonjour Charlotte Velty.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Concrètement, dans le paysage radiophonique, dans le paysage médiatique aussi, quel bouleversement cette date de 80 a symbolisé?
Ça a annoncé l'ouverture à une certaine liberté et aussi la perte d'une certaine liberté puisqu'il y avait les radios officielles et les radios pirates qui sont pour la plupart devenues officielles et ensuite qui ont signé des conventions avec le CSA et qui ont des obligations comme pas faire plus de 20% de leur chiffre d'affaires en publicité, également produire 4 heures de programme par jour. Donc voilà, c'était des obligations qu'elles ont eues par la suite.
Ça veut dire qu'il y a des radios pirates qui, face à ces obligations-là et à cette perte de liberté, ont pu arrêter d'émettre?
Il y en a qui ont arrêté d'émettre, mais ça existe encore, les radios pirates. Il y en a beaucoup.
On a une idée de combien il y en a qui ne sont pas officielles comme ça?
C'est difficile. Sur la région nantaise, on sait qu'il y en a deux quand on écoute bien la bande FM. Après, c'est difficile de trouver les pirates.
En gros, pour les trouver, il faut tourner le bouton tout petit à petit et puis...
Voilà, quand il n'y a pas de nom qui s'affiche ou quand on n'a pas le nom de la radio, on sait que c'est une radio pirate.
Depuis 34 ans, quelles évolutions ont connu les radios libres? Alors, il y a eu ce choc 80 où vous le disiez, il fallait s'officialiser, puis répondre à des exigences et se montrer au CSA. Est-ce qu'il y a eu des évolutions, d'autres évolutions ensuite dans les 34 dernières années en ce qui concerne les radios libres?
Alors, il y a une professionnalisation. Qui va en parallèle de la professionnalisation du milieu associatif, donc c'est-à-dire qu'il y a des salariés dans les radios, et ces salariés-là demandent aussi d'avoir un conseil d'administration et un bureau qui joue le rôle d'employeur. Donc les bénévoles doivent aussi se professionnaliser d'une certaine sorte. Ensuite, on a également au niveau de l'antenne des formats qui ont pu changer avec des modes. Il y a eu beaucoup de radios qui étaient beaucoup dans quelque chose de musical et ensuite qui sont passées sur du rédactionnel. Et également, on voit que dans l'engagement des bénévoles, c'est quelque chose qui va toujours de manière croissante.
Et en termes de nombre, de chiffres, j'imagine qu'en 80, ça, enfin, on imagine qu'en 80, ça a explosé. C'est souvent ce qu'on se dit. Est-ce que c'est le cas déjà? Et ensuite, depuis, est-ce que ça...
Alors, il y avait une base. Et là, ça, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de radios associatives, donc plus de 600. Alors après, c'est toujours les syndicats qui revendiquent un certain nombre d'adhérents ou non. Le CSA a du mal à nous dire combien il y a de radios associatives. On le voit grâce au fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et en 2013, il y a eu 4 nouvelles radios encore en associative. Donc ça continue d'augmenter. La seule contrainte, c'est la bande FM qui est saturée. Donc on ne peut pas accueillir de nouvelles radios associatives.
En termes de vocabulaire, pourquoi est-ce que désormais on dit radio associative et plus radio libre, alors qu'en 80 on disait radio libre ?
J'ai pas forcément la réponse, mais peut-être parce qu'on fait la scission entre un engagement associatif avec des bénévoles et encadré ou aidé par des salariés. C'est peut-être ça qui fait que c'est un peu plus construit que les radios pirates.
Alors cette semaine, c'est la semaine des radios associatives en Pays de la Loire.
Le Réseau Urbain, c'est votre émission d'actu du lundi au vendredi de 17h à 18h. Sur le 88.6.
Et en Pays de la Loire, ce sont 22 radios sur 5 départements.
18h10, 19h sur les ondes du 101.5 FM. Bienvenue dans l'émission Kézako.
Est-ce qu'on est une région particulièrement dynamique, radiophoniquement parlant ?
Alors, c'est 22 radios dans la région, mais il y a 30 radios en tout dans la région. Les 22 radios sont membres de la FRAP et une autre fédération qui existe. Effectivement, on a eu la chance d'avoir pas mal de radios, c'est-à-dire sur Angers, sur Nantes, et il y a un vrai dynamisme puisque dès 2006, elles ont aussi décidé de mutualiser leur savoir-faire pour travailler ensemble sur du développement de fonds régionaux, par exemple. Mais là où on a réussi quelque chose, c'est dans la mutualisation.
Premier service, deuxième service. Du lundi au vendredi, de 12h à 13h à 18h. Invité, reportage, chronique, invité et musique. Reportage, chronique et musique.
Concrètement, cette mutualisation elle transparaît comment ? Donc il y a cette semaine dont on va parler tout de suite, mais sinon la FRAP, par exemple, elle sert à quoi ?
Alors la FRAP, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert à former les bénévoles et les salariés. Donc on a un programme de formation à l'année où, selon les besoins des membres des radios, on fait des formations avec des intervenants nationaux. On a également une émission commune régionale qui s'appelle Tout Nouveau Tout Beau, qu'on fait de manière ponctuelle selon des événements. Donc on a été au Forum mondial des droits de l'homme, par exemple. Et puis on a aussi des événements comme la rencontre ou la semaine des radios là, qui arrive.
Alors la semaine des radios associatives, ça sert à quoi ? C'est la deuxième édition. À la base, elle servait à quoi ? Comment vous avez eu l'idée ? Puis quel retour vous avez eu pour la refaire cette année ?
L'idée, c'était de commencer sur une semaine autour de la Journée mondiale de la radio, d'avoir des événements autour des radios associatives, selon les besoins et les envies. Donc là, on a des zappings, des échanges de programmes et des portes ouvertes.
Bonjour à toutes, bonsoir même à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 10 février et il est 19h, l'heure de votre toute dernière édition locale du jour dans la tribu.
L'idée, c'est de dire au grand public, la radio que vous écoutez, que ça soit Radio Campus, Sun, Radio G, Prune, ce sont des radios qui sont faites par des bénévoles. Et vous pouvez devenir aussi bénévole. Donc il y a cette ouverture sur le grand public et aussi vis-à-vis des institutionnels de leur rappeler le nombre de bénévoles qu'il y a, l'engagement et comment les radios se retrouvent comme des co-constructeurs du territoire puisqu'elles sont avec les associations qui font des choses. Elles sont à la fois médias mais aussi reliées en communication.
Qui est-ce qui écoute les radios associatives aujourd'hui ?
Alors, aux dernières nouvelles, donc, c'est toujours difficile de... On n'a pas de chiffre médiamétrie par radio parce que ça coûte un bras d'enfant. Donc c'est assez difficile pour les radios de financer ça et ce n'est pas du tout adapté aussi au milieu associatif. Par contre, il y a une étude de médiamétrie sur les régions. On sait que les radios associatives, par jour, il y a 76 500 auditeurs. Donc là, on est sur du global et on fait partie des trois régions les plus dynamiques en termes d'écoute.
J'imagine que là, étant donné que les études médiamétriques coûtent un bras d'enfant, on ne peut pas savoir quel est le profil de ces auditeurs.
Alors après, chaque radio connaît sa cible, peut mener des enquêtes avec aussi des masters qui travaillent avec elle. Mais la plupart, non, on ne peut pas vraiment connaître le profil puisque chaque radio présente à la frappe à sa cible.
Jackie Le Mayennais est candidat de l'émission « L'amour est dans le pré ».
Puisqu'on réunit des radios étudiantes, des radios confessionnelles, des radios généralistes, donc on ne peut pas dire exactement le profil type d'un auditeur. Par contre, on peut dire que les bénévoles, ils ont en moyenne 28 ans. Les salariés, ils ont en moyenne 34 ans. Donc on reste aussi sur des moyennes très jeunes.
À quoi sert concrètement une radio associative en termes d'information, peut-être de prescription musicale? Pourquoi est-ce qu'un auditeur va se tourner vers une radio associative plutôt que vers une autre radio?
Parce que c'est une alternative. Là où on écoute des morceaux, on peut écouter des morceaux de 7 minutes dans une radio associative, on peut avoir de la découverte, enfin c'est surtout de la découverte, et on parle beaucoup du local. C'est vraiment son rôle primordial, donc ça complète certains autres médias.
Par exemple, sur Radio Campus, on peut écouter Movie Star Junkies avec Jim Thompson.
Don't believe in hell, you can have it twice. Don't cry for a chance, leave this world behind. Think about your baby, and don't believe in hell. Don't believe in hell.
Nous sommes avec Charlotte Velty, la directrice de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, à l'occasion de la deuxième semaine des radios associatives de la région. Charlotte Velty, vendredi prochain, donc dans deux jours, c'est la journée mondiale de la radio, une date posée par l'UNESCO qui explique que la radio touche 95% de la population mondiale. Est-ce qu'au sein de la FRAP de la région, on arrive à vérifier l'impact des radios locales sur la population? Est-ce qu'on sait quel est le taux de... d'écoute? Alors on a parlé du nombre d'auditeurs, mais de l'influence, de l'impact des radios locales, pas?
Alors on peut le voir avec la participation des auditeurs quand on leur demande de participer soit à des jeux ou à des événements, avec un gros retour là-dessus. Par exemple, les soirées prunes, c'est très souvent complet, ou les soirées que vous pouvez aussi avoir. Ensuite, au niveau de l'impact, on est aussi vecteur via les conseils généraux et le conseil régional de communication. Donc on essaye de vulgariser en fait toutes les actions qui peuvent être menées.
En novembre dernier, il y a un article du Monde qui indiquait qu'en audience cumulée, la radio enregistre son plus mauvais résultat depuis 2002. Ça, c'était pour les chiffres de 2013. C'était pour évidemment toutes les radios nationales. Est-ce que pour vous, la radio est en perte de vitesse?
Non, parce qu'en fait, c'est surtout le mode d'écoute. Je ne sais pas si Médiamétrie, pour cette étude, on parlait d'écoute sur un poste ou via un baladeur en FM. Mais quand on fait des ateliers radio, quand les radios vont dans les collèges, les lycées, on se rend compte que les jeunes, ils n'écoutent plus la radio avec un poste. Ils l'écoutent avec leur smartphone. Et c'est un autre type d'écoute. Et les podcasts sont très écoutés aussi.
Alors, est-ce qu'il faudrait que les radios traditionnelles se réfléchissent à ce nouveau mode d'écoute? C'est déjà fait. Il y a Sun Annonce, par exemple, qui a lancé une application révolutionnaire, en quelque sorte, sur le mode d'écoute.
Portrait d'artiste, découverte, Hugo Cherel.
Est-ce qu'il faudrait que tout le monde s'y mette à cette réflexion-là?
Oui, il faut pouvoir ne pas être excluant, donc toujours intéresser les auditeurs et amener de nouveaux auditeurs. Donc effectivement, le fait d'amener de la vidéo sur certaines interviews, ça peut être une bonne idée. Avoir une application aussi, avoir des podcasts lisibles avec du texte, très facile, un site internet très, très fonctionnel, ça c'est toujours un plus. Et pour revenir sur un peu l'application de Sun, c'est un pari qu'ils ont fait aussi en disant les auditeurs à telle période, je ne sais plus exactement les horaires, mais les auditeurs peuvent choisir des morceaux. Et donc c'est sous forme de dédicace. Finalement, ils ont juste repris un principe des radios des années 80 où Simone appelait pour passer un vinyle pour Simon. Finalement, là c'est ça, mais avec une application et par SMS.
Le thème de cette journée mondiale de vendredi, c'est jeunesse et radio, parce que selon l'UNESCO, les jeunes ne sont pas assez représentés dans les radios, tant derrière le poste qu'à l'écoute. À la FRAP, c'est qui les jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'on a une idée du taux de jeunes dans les radios associatives des Pays de la Loire?
Alors comme je le disais, au niveau des bénévoles, c'est 28 ans la moyenne d'âge, donc il y a quand même des jeunes. On a deux radios étudiantes.
Tous les lundis de 19h à 20h, retrouvez Cité à la Une, l'émission qui déshabille la politique et les faits de société.
Donc c'est effectivement eux qui font baisser la moyenne d'âge. On a des radios confessionnelles, on a des radios généralistes et tout cela font augmenter cette moyenne d'âge. On voit que les radios associatives, c'est aussi un tremplin pour les jeunes puisque c'est professionnalisant. C'est une ouverture sur d'autres domaines, donc un vecteur de curiosité. Et au niveau des emplois, effectivement, quand on a un poste dans une radio, il y a plutôt tendance à s'accrocher sur ces postes-là. Mais comme c'est des radios associatives, on est sur des emplois aidés. Donc ça peut être aussi un tremplin pour des jeunes, puisque la moyenne d'âge des salariés, c'est 34 ans. Mais on a tous les cas de figure. Et effectivement, là où l'enjeu des radios doit être, c'est les radios associatives. On a ce côté historique où on vient de l'éducation populaire, on a été autorisé, on est devenu de radio pirate, on est devenu des radios libres, mais il ne faut pas seulement parler à une certaine population.
Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
C'est quoi les enjeux qu'attendent les radios associatives dans les mois, les années à venir? Il y a la radio numérique terrestre dont on entend parler depuis un certain temps. Voilà, sur ce dossier-là, par exemple, où est-ce qu'on en est ?
Alors, effectivement, depuis 1998, c'est le serpent de mer des radios, avec des enjeux politiques et commerciaux qui vont derrière. Pour faire court et pour être la plus simple possible, en fait, il y a eu un appel qui a été lancé officiel à Paris, Nice et Marseille depuis septembre, donc des radios associatives et des radios commerciales diffusant RNT, et ça fonctionne. Depuis 2010, sur Nantes, il y a une expérimentation avec des radios associatives et des radios commerciales qui diffusent ce projet-là porté par des radios associatives. Et donc, on est prêts, nous, à Nantes, pour porter un projet officiel. Et donc, les prochaines villes qui vont arriver seront des villes limitrophes, Strasbourg, Mulhouse, et aussi des villes où il y a eu des expérimentations, Lyon et Nantes. Donc, on attend l'appel officiel.
Et en termes de financement, comment ça va, les radios associatives ?
Alors, ça va. On ne sera pas alarmiste parce que je n'aime pas du tout avoir ce genre de discours. Il faut. Un sou est un sou. C'est compliqué parce qu'on est toujours en train de tirer vers le bas sur certaines dépenses en fonctionnement. Mais on a la chance, en Pays de la Loire, d'être soutenu par le Conseil régional qui suit le financement du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est donc un financement du ministère. Et on a également, dans certains départements, une déclinaison du fonds en région et certaines villes qui aident beaucoup. Donc là, les enjeux, il va y avoir les départementales, il va y avoir les régionales, donc ça sera éminemment politique. L'idée étant de garder au moins ce qui l'existant, parce que les radios ne pourront pas perdurer sans ça. Et effectivement, pour les départements qui ne jouent pas le jeu, de connaître leur radio associative sur le territoire et leur impact.
Merci Charlotte Velti d'avoir
Merci.
Été avec nous. c'était Click Here avec Igarsona.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et dans le sous-marin, c'est l'heure de retrouver la chronique Lance Torpille de Yann.
Petite virgule ?
Petite virgule.
Salut Yann.
Bonsoir, bonsoir Tiffaine, bonsoir et bonsoir à tous. Vous le savez, chaque semaine, j'ai pour habitude de déverser ma haine, ma colère, ma fureur, ma rage, mes indignations sur des sujets d'actualité politique ou non. Mais pour entamer cette chronique du 11 février, c'est par la tristesse que je commencerai. Ce soir, je ne parlerai pas du décès de l'inspecteur Navarro. Ou devrais-je dire, je ne parlerai pas de l'acteur qui interprétait le rôle de l'inspecteur Navarro, Roger Hanin. Merci Roger. Sans toi, mes après-midi à roupiller sur le canapé devant la télé n'auraient pas eu la même saveur. Celle des longs dimanches après-midi pluvieux ou celle des lendemains de cuites lorsque 30 millions d'amis étaient déprogrammés. Merci Roger, tu resteras à tout jamais notre Sherlock Holmes à la française.
Ne pleure pas Yann, ne pleure pas.
Je vais essayer mais c'est dur tu sais. Bon allez, je m'emmène mes émotions. Ce soir, je ne parlerai pas des élections législatives dans le Doubs, et par conséquent, je ne parlerai pas de la victoire du PS. Et je dis bien victoire du PS, et non presque victoire du FN. Mesdames et messieurs les journalistes, forçons-nous à utiliser les bons mots dans leur bon sens pour ne plus donner de l'importance à ceux qui n'en méritent pas. Ce soir, je ne parlerai pas d'HSBC. Vous êtes au courant, certains pays manquent cruellement de thunes, moyennant quoi les retraites sont baissées drastiquement, les services publics sont cassés, les salaires régressent et stagnent de plus en plus, et les délocalisations sont légion pour plus de compétitivité. Ces mêmes pays, qui réclament encore plus de sacrifices et d'efforts de la part de leurs habitants, n'hésitent pas à faire appel à des avocats fiscalistes BCBG et à des banques ordurières HSBC pour organiser depuis la Suisse l'évasion fiscale que l'on connaît à coups de milliards. Et dire que certains partis voudraient nous imposer à nouveau des candidats de riches, dont le célèbre avocat conférencier qu'on ne nomme plus, qui n'a rien fait de mieux en arrivant au pouvoir en 2007 que d'accorder des cadeaux fiscaux aux moins démunis, les nantis. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de Béziers.
La ville de Robert Ménard.
Tout juste. Ce qu'il y a bien avec Robert Ménard, c'est que c'est un homme sans surprise. Il y a eu 4 millions de Charlie dans la rue le 11 janvier, il peut bien y avoir un Charlot à la mairie de Béziers. Depuis le 1er février, la ville de Béziers, ou plutôt précisément la police municipale de Béziers, est équipée de 7,65 mm automatiques, des armes létales, pour tuer donc. Bon, avant qu'on me dise « oui, mais tu sais, après les attentats du mois dernier, tout ça, la police, faut qu'ils se protègent, tout ça, stop !» Sur le fond, pourquoi pas ? Mais les policiers municipaux ne sont pas entraînés et ne pourraient de toute façon rien faire, même armés, contre des configurations terroristes ayant introduit ce genre de mesures. Un 7,65 est inutile quand vous êtes pris de dos et dérisoire face à des armes lourdes. Outre ce débat sur l'armement des policiers municipaux, c'est plutôt la façon par laquelle la ville de Béziers a communiqué sur ce fait qui est, disons-le, choquant. Désormais, la police a un nouvel ami. Voilà le slogan de la campagne d'affichage de leur police municipale. Si le slogan semble innocent, l'image, elle, qui l'accompagne, lui donne un sens bien différent. Un pistolet avec le drapeau français gravé dessus. Désormais, la police a un nouvel ami. Le flingue est donc un ami. En une campagne d'affichage, Robert Ménard se charge de flinguer la mobilisation du 11 janvier, qui avait choisi la paix face à la haine, la fraternité face à la peur. Mais que cherche-t-il avec cette campagne ? Prévenir les jeunes délinquants qu'ils peuvent se faire buter pour des conneries ? Une arme pour se défendre de qui ? De ceux que la police municipale doit protéger ? État policier et société militarisée, recentralisation et fin des politiques sociales, qui disait que l'extrême droite avait changé ? Notre société qui bouillonne déjà suffisamment de violence, voire d'ultra-violence, avait-elle vraiment besoin de propagande et de petits shérifs fébriles portant des valeurs pitoyablement primitives et martiales ? Messieurs, dames, les défenseurs de l'armement, à force de vouloir vous prendre pour Lucky Luke, vous risquez de vous glisser dans la peau de Rentenplan. C'est tout pour moi ce soir. Portez-vous bien, serrons-nous les coudes et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Yann.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
À partir de demain, le festival Les Éclectiques prend ses quartiers d'hiver à Cholet, une édition un peu perturbée par l'annulation de la soirée de samedi. Thierry Bidal, le programmateur, a répondu à l'appel de Thomas qui lui a passé un coup de téléphone.
Bonjour Thierry Bidet, vous êtes programmateur au festival Les Éclectiques, un festival qui s'articule en plusieurs parties selon la saison de l'année, avec chacune son lot de styles. Donc on a ainsi vu défiler Aurel San aux côtés de Catherine Ringer ou encore JMPZ, voire même Yodelis, assez varié. On est ensemble au téléphone pour parler de la collection Hiver des Éclectiques.
Oui, bonjour.
Alors, pour cette collection hiver, on notera la présence d'Eagle's Gift, un groupe angevin qui commence à arpenter quelques scènes reconnues, parmi lesquelles on peut noter Austin ou encore les Transmusicales de Rennes plus récemment, en fin d'année dernière. Est-ce qu'il y a cette volonté de soutenir la création locale au sein des Éclectiques ?
Alors, oui, en général, on s'attache sur chaque collection à avoir au moins un artiste régional. C'est l'idée, pour le soutenir justement et le faire connaître auprès de notre public. Et puis ensuite, à savoir sur Eagle Gift, parce que ça, je n'étais pas prévenu à la base, mais la soirée du samedi est annulée, donc on n'aura pas d'Eagle Gift.
Rien de grave, j'espère. Du coup, le reste des soirées sont quand même programmées.
Ouais, c'est ça, ça se passe très bien sur les deux autres soirées, mais celle-ci, ça ne prenait absolument pas, quoi. On était à 19 Locks hier matin, donc on s'est dit, ça ne sert à rien de faire un concert à 50 dans une salle de 400 avec trois groupes, enfin, ça n'a ni sens pour les groupes, ni pour le public, ni pour nous, quoi. Donc, c'est ça. Bah, ça aurait été dur pour les groupes, quoi, en tout cas, quoi qu'il arrive.
En tout cas, pour le reste des groupes qui sont dans la programmation, on reste dans le local, il y a les Nantais Kabadzi.
Je me suis quand même pas fait beau 100 fois pour rien. Je t'ai quand même pas imaginé nu 100 fois pour rien. Quand même pas gâché.
C'est un artiste qu'on avait suivi dès le départ justement sur cet album June là, qui vont jouer 10 ans plus tard, puisque le groupe était passé sur les Éclectiques en 2006. Et c'est un groupe déjà qu'on avait fort apprécié sur scène. Donc, du coup, quand on a su qu'ils cherchaient des lieux insolites pour rejouer cet album justement que tout le monde avait apprécié dans la soue, donc, tout le monde a validé le choix de faire ça à la Chapelle. Et puis l'artiste était très séduit aussi par cette idée, puisque la Chapelle, c'est plutôt un écrin assez magnifique, hein. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'y aller, mais voilà, ça fait un cadre tout de suite intimiste, et puis un lieu assez privilégié pour le public, puisqu'il y a une vraie proximité avec l'artiste, quoi.
Je profite qu'on soit encore dans la programmation, on va faire un petit tour en fait de ce qu'il y a dans les deux autres journées qu'il reste. Il y a également le duo féminin Mansfield Tia, j'espère que je le prononce bien. Il y a des éléments qui permettent de reconnaître, peut-être que vous pouvez en parler.
Quand on évoque Shannon Wright ou Cat Power dans les bios de Mansfield Tia, ça leur correspond bien. C'est effectivement un artiste féminin avec une voix très particulière, une atmosphère musicale aussi très particulière. C'est vraiment un son qui leur est propre. Voilà, c'est des artistes qui conviennent bien justement dans des lieux un peu insolites et puis qui du coup s'exprime pleinement dans ces cadres-là, puisqu'il y a besoin de cette intimité, il y a besoin de proximité, il y a besoin de... Voilà, c'est vraiment très, très très fragile comme son.
On a également la présence du sampleur et violoniste Chapelier Fou, qui fait partie de la programmation de Radio Campus et donc de votre affiche. Un mélange assez étonnant, en fait, ces deux univers électroniques et puis à cordes.
Oui, bah du coup c'était le lien entre les deux artistes de cette soirée, la Kabadi et Chapelier Fou, l'un qu'on pourrait tantôt classer dans la chanson française et tantôt classer plutôt dans le hip-hop, le beatbox, quoi, et puis l'autre mélangeant justement ça, ce qui l'a formé, c'est-à-dire la musique classique avec les musiques électroniques. Donc, je trouvais qu'il y avait un vrai lien entre ces deux artistes-là, ça faisait une soirée cohérente. Et Chapelier Fou, bah pareil, c'est pas un inconnu, hein, chez les Éclectiques, c'est la deuxième fois qu'on le programme. Pour moi, c'est des valeurs sûres, quoi, vraiment artistiquement parlant, même si c'est pas encore très connu du grand public, quoi.
La sélection de ces artistes, elle se fait de quelle manière ? Comment est-ce que vous faites la recherche en amont ? Est-ce que vous êtes plusieurs à intervenir sur cette sélection ?
Alors, je suis seul programmateur dans l'asso. Par contre, ça m'empêche pas d'écouter ce que me disent les gens dans l'asso ou autour de moi, qui ont vu tel ou tel artiste. Après, moi, je me balade tout au long de l'année sur différents événements, festivals ou salle. Et puis surtout, j'écoute beaucoup de musique. Sur l'hiver, c'est un peu différent puisqu'on est sur des formats plus intimistes, justement, des jauges plus réduites. Du coup, on a une prise de risque beaucoup plus importante. On cherche plus à faire découvrir des artistes. Donc, du coup, c'est plus à l'écoute que vraiment véritablement en live, puisque là, sur le festival, je dirais qu'il y a que la moitié des groupes que j'ai vus sur scène et l'autre moitié, je l'ai vraiment programmé qu'à l'écoute.
Il y a vraiment cette importance en fait dans ces programmations, en tout cas pour l'hiver, de faire découvrir des choses au public qui restera fidèle peut-être pour les prochaines éditions.
Bah, après, je pense qu'on a un peu, en quelque sorte, une image de marque dans le sens où même le public qui vient l'automne sur la grosse soirée, en général, repart avec une ou deux découvertes parce que sur la scène 2, il a pu découvrir tel ou tel artiste auquel il n'avait pas du tout pensé. Parce que voilà, c'est ça. Devant lui, il a passé un bon moment. Donc on a toujours eu cette reconnaissance de faire découvrir des artistes inconnus. Quoi. Voilà. Donc, alors, du coup, on s'y tient plus effectivement dans l'hiver où là, comme je disais tout à l'heure, c'est plus propice. Quoi. C'est des jauges beaucoup plus réduites. Donc de toute façon, on ne peut pas y projeter de faire des têtes d'affiche ou des artistes qui ont déjà montants. Quoi. On est plus vraiment que dans la découverte. Quoi.
Le courant porteur du festival, on l'aura compris, donc c'est l'éclectisme. Quel retour vous avez du public concernant cette diversité? Est-ce qu'en général, il est plutôt content? Vous disiez qu'ils venaient en fait faire une découverte ou deux sur l'ensemble de la soirée. Est-ce que vous avez des retours de leur part?
Oui, bien sûr, et on le voit tout simplement chez le vendeur de CD hein, la semaine suivante, hein, qui vend, par exemple, l'année du passage de Youngblood Brass Band, une vingtaine de CD, alors que, bon, cet artiste-là, d'habitude, il vendait aucun album, quoi. C'est juste, ouais, ce genre de répercussions-là montre tout de suite que, voilà, il y a eu un intérêt pour cet artiste, les gens, du coup, derrière, achètent l'album. Bon, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis après, je pense que c'est vraiment notre image de marque. On a, c'est l'éclectisme, et puis c'est pas que les têtes d'affiche, c'est aussi justement faire découvrir des groupes. Du coup, en général, je m'amuse vraiment à les placer quand on a l'occasion d'avoir deux scènes, comme sur le printemps ou sur l'automne. Je m'amuse vraiment à placer justement une tête d'affiche au départ de la soirée pour que le public vienne dès le départ de la soirée et que la première partie joue pas justement, enfin le groupe découverte joue pas devant personne comme c'est souvent le cas dans des soirées où on met une première partie et ensuite le groupe connu, quoi.
Les gens arrivent toujours après l'horaire de l'ouverture des portes, toujours un peu plus tard.
Bah, pas chez nous, justement, parce qu'en général, il y a cette tête d'affiche qui joue dès le départ, dès 19h, et du coup, on a tout de suite 2000, 2500 personnes qui sont arrivées et qui sont dans le festival. Quoi. Et donc, du coup, le groupe inconnu joue devant 2000, 2500 personnes, ce qui est plutôt...
gratifiant.
Ouais, ça lui permet, en tout cas, ça lui donne plus de chances de s'en sortir.
Quel bilan vous effectuez lorsque vous regardez en arrière l'intégralité, en fait, des groupes qui ont foulé vos scènes? Est-ce qu'il y a une sorte de fierté lorsque vous regardez un peu ce panel?
Fierté, non, je pense pas. Après, on essaie juste d'être curieux, de continuer d'être curieux, de pas céder à l'aspect trop commercial des choses, quoi. Faire le plein pour faire le plein, quoi. On essaie vraiment à chaque fois qu'il y ait de la qualité sur scène et qu'il y ait de l'originalité, quoi.
On va faire un petit retour sur l'historique des éclectiques. Votre première édition a eu lieu en plein air en 1998. La tradition du plein air a perduré jusqu'en 2007, date à laquelle la météo vous a fait faux pas. Maintenant, le festival se déroule en salle, donc les éclectiques ont connu une période difficile. Comment le festival se porte aujourd'hui? Est-ce que on peut s'attendre à de belles éditions dans l'avenir?
Le festival se porte de mieux en mieux, parce qu'effectivement, depuis 2006, on a beaucoup souffert de cette édition avec une mauvaise météo. On redresse encore les comptes de cette édition-là, hein. Mais on est très très proche du but. Là. Je pense même que cette année devrait être l'année où enfin, on remet les compteurs à zéro et effectivement, ça permet d'entrevoir, de prendre plus de risques et j'espère d'évoluer dans nos propositions sur les trois collections. Donc, il y a pas mal de projets. Maintenant, voilà, faut que cette année fonctionne comme on l'attend et je pense que le public verra une forte évolution en 2016 des éclectiques.
Dans cette évolution, en plus, vous avez eu la chance de vous appuyer sur des supports locaux, parmi lesquels le théâtre Foirail de Chemillé et le jardin de Vert. Est-ce que ce sont de bonnes béquilles? Est-ce que vous auriez pu avancer sans ce type de soutien, ce type de contribution?
Ah, déjà, je vais pas les qualifier de béquilles, parce que je pense qu'ils seraient offensés. C'est plus des partenaires, hein, réellement. L'idée, vraiment, quand on a reconstruit le projet en 2007,
c'était de se dire bon, comment on peut dépenser moins d'argent par rapport à un plein air qui est extrêmement coûteux, et puis surtout garder l'esprit ce qu'est le projet artistiquement parlant, quoi. Donc du coup on a essayé de construire avec tout l'existant sur le territoire. Donc il y avait le foirail effectivement qui venait juste de se bâtir, avec une halle qui permet d'adapter la jauge un peu comme on le souhaite, quoi, de 2000 à 6000 personnes. Et puis tous les structures existantes sur Cholet, donc un café et concert, le Barouf, une chapelle, un théâtre, enfin bref, plein de lieux, le jardin de verre, et tout ça nous a permis petit à petit de tisser un projet, d'abord d'automne, puis ensuite de printemps, puis ensuite d'hiver. Enfin voilà, maintenant on est rendu à 3 collections. Et on pense, je dirais, à s'étendre un peu plus, quoi, aller conquérir un peu plus déjà le territoire des Mauges, et pourquoi pas le territoire angevin, quoi. Voilà, on est dans ces perspectives-là, quoi.
Mis à part le festival de la programmation musicale, vous mettez également en place des actions dites culturelles, des moments qui visent à toucher les jeunes de 13 à 18 ans qui sont issus du territoire. Il y a donc des rencontres qui permettent aux jeunes de découvrir l'organisation du festival, les métiers qui gravitent autour, donc la radio, la presse écrite. C'est vraiment une éducation populaire qui a pris un sens vraiment profond depuis les événements de janvier. Est-ce que c'est quasiment 50% du festival, ce moment-là?
Alors 50%, ça serait un peu exagéré, mais ça concerne à peu près une centaine de jeunes à l'année quand même, donc c'est pas mal, hein, pour une association plutôt rurale, hein, et non urbaine. C'est justement d'amener la culture sur ces territoires où finalement il se passe pas forcément grand chose, et puis aussi de permettre à ces jeunes de découvrir le festival par d'autres biais, hein, donc l'action culturelle, ça a permis à pas mal de jeunes de découvrir le festival et aujourd'hui de faire partie intégrante du festival en tant que référent ou en tant que membre du conseil d'administration, quoi. Donc on trouvait cette porte d'entrée assez intéressante. Et pour ce qui est de l'éducation populaire, bah clairement c'est un peu la base du projet, c'est-à-dire qu'il y a à la base beaucoup de gens qui étaient à travailler dans les centres sociaux et qui faisaient partie de l'association. Et du coup, cette valeur d'éducation populaire a tout de suite été défendue au travers du festival, quoi.
Et c'est une activité que vous comptez développer après, peut-être de quelle manière ?
Alors, toute la difficulté, c'est d'avoir les moyens de la développer, puisque autant avec nos petits moyens, justement, et beaucoup d'énergie, on arrive à mener de front ce projet de fanzine, ce projet de radio, ce projet de vidéo, et puis également des chantiers qui se déroulent en général aux vacances de la Toussaint, où là, il y a plus une présentation de nos métiers et puis un projet de décoration, de montage de décors. Faire plus aujourd'hui sans plus de moyens, ça, c'est complètement impossible, quoi. C'est déjà, on fait beaucoup, quoi, franchement. Voilà.
Eh bien, merci Thierry d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Eh bien, de rien. À bientôt.
Chapelier Fou est en live vendredi soir au Jardin de Verre de Cholet dans le cadre du festival Les Éclectiques. Et puis, il est tout de suite dans vos oreilles sur Radio Campus Angers avec Triads for Two.
Thank you.
sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir dans le sous-marin, c'est l'assaut étudiante CultuArt qui investit le bazar dès 21h en vue de son événement La Nuit des Sens au programme Get Out Ghetto Crew avec Yogi Yoga, OVAP et Teizuke Yigen. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore à l'occasion de la semaine des radios associatives en Pays de la Loire dont on vous a parlé dès le début de l'émission. Chacune des 22 radios était invitée à proposer son zapping, un petit passage en revue de ses programmes. Ce soir, au hasard, on vous propose de tendre une oreille vers l'autre radio située à Château-Gontier en Mayenne.
À l'occasion de la semaine des radios associatives en Pays de la Loire, votre radio et la Frappe vous proposent de découvrir les multiples facettes de votre station favorite.
Jackie le Mayennais est candidat de l'émission L'amour est dans le pré. Alors, autant j'ai adoré le film Le bonheur est dans le pré avec Michel Serrault, les frères Cantona et Sabine Azéma, qui se fait tout de même déboucher les écoutilles par Eddie Mitchell, ce qui n'est pas rien tout de même.
Le zapping.
Passe-moi le tournevis.
Lequel ?
Celui avec le manche orange.
J'en vois pas avec le manche orange.
Bon Dieu, tu l'as devant le nez.
C'est pas un tournevis à manche orange. C'est un tournevis à manche rouge.
Bon, fais pas chier, envoie-le.
C'est pas la peine de t'énerver.
Merde, je suis coincé sous la bagnole et toi tu te prends pour Picasso avec tes rouges et tes oranges.
Picasso n'a jamais beaucoup utilisé le rouge et l'orange.
Le zapping.
Amateurs de séries, je vous salue. Aujourd'hui, c'est Citrouille Emma qui vous parle et qui vous souhaite la bienvenue. Bouhouhou, fini Halloween et ses monstres sacrés. Vous avez mangé vos bonbons, vous avez rangé votre déguisement et nettoyé votre maquillage. Et pourtant, vous en redemandez encore. Alors après 4 jours de souffrance anti-Halloween, je vous propose cette chronique 100% frisson, partagée par l'actu des séries, la série du mois et la citation de la fin.
Le zapping.
David Kali et Marie d'Orléans nous offrent un album magique où un simple rangement se transforme en un incroyable voyage au cœur de l'enfance, où chaque objet a une histoire et même une âme. Le tout est sublimement illustré avec de jolies teintes pastel et douces, une délicieuse comédie à savourer ensemble.
Le zapping.
C'est le tout dernier film de Naomi Kawase, Still the Water, un film qu'on a découvert, repéré et énormément aimé lors de la dernière compétition du Festival de Cannes, puisqu'il était dans cette compétition. Il est d'ailleurs reparti, hélas, sans rien, mais c'est un peu la faute de la réalisatrice, qu'apparemment elle avait déclaré que soit elle avait la palme d'or, soit elle ne voulait rien. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu le scénario ou quelque chose d'autre.
Le zapping.
Qu'est-ce qu'on te colle comme morceau après ça ? Es-tu, je, on trouve toujours le bidule en prolongation. Du moins, on essaye. Là, tu vois mon pote, j'ai vraiment envie de re-écouter le tendre anard, Brassens. Là, je veux bien retourner mon crayon côté gomme pour m'effacer tout oui. Oui.
La semaine des radios associatives en Pays de la Loire. Plus d'infos sur www.lafrappe.fr.
Et pour découvrir les autres radios du réseau Frappe, rendez-vous sur le site de la Frappe, lafrappe.fr, dès que celui-ci sera plus piraté. D'ailleurs, profit de pas de panique, tu veux peut-être nous donner un petit conseil ?
Oh bah, ils devraient revoir leur sécurité internet.
Donc dès 20h, on retrouve pas de panique. Qu'est-ce qu'il y a au programme, au sommaire de l'émission ?
On continue notre triptyque spécial MMO avec cette fois-ci un angle sur les MMO pour vieux ou les vieux MMO.
Et MMO ?
Les MEPORG, les jeux massivement multijoueurs en ligne.
Merci, merci pour la traduction. Donc c'est dès 20h sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h. On parlera anti-gaspillage. Merci à Yann et à Thomas et à Maëlle pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.